Bonjour. Boudendi avec Morgane, Gadi Nampol, Mirabel, Tanguy Pasturo, Daniel Morin et nos invités. Emmanuel Merco et Pierre Ninet. Nous allons parler de ce film Goliath, le nouveau film de Frédéric Tellier avec Pierre Ninet, Emmanuel Berco, nos invités, mais également Gilles Lelouch, Laurent Stocker et Yannick Régnier. Il est plus la Comédie Française?
Si.
Non, il faut pas dire de la Comédie Française.
Si, si, mais faudrait.
Il faudrait.
Il faudrait.
Quand même. Nous parlons de ce film qui est une histoire, le mec qui s'énerve tout seul, qui est une histoire tristement vraie. Avec une affaire qui concerne des pesticides, en fait. Et puis il y a tout un rapport de force entre les lobbies et les agriculteurs, évidemment. Et puis ceux qui sont victimes, ouais, joué par Gilles Lelouch, et Pierre Ninet étant le lobbyiste, et Emmanuel Berco étant une agricultrice, femme également d'agriculteur, qui est frappée d'un cancer. Et puis il y a eu toute cette affaire des enfants.
Elle est juste ouvrière, elle n'est pas agricultrice, ils vivent à côté d'une exploitation agricole.
C'est ça, voilà. Et elle subit l'épandage du
voisin. Tétrazine.
Mais qui existe en plus, hein, je suis à vérifier. Moi j'avais retenu glyphosate comme étant le Monsanto banni, mais...
Tétrazine, c'est plus acide comme goût.
On voit le connaisseur.
Oui.
Et pourtant, quelle mauvaise herbe.
On n'y a plus beaucoup.
Voici
ça vient marcher.
T'es prêt, Paul Mirabel, ou pas?
Parce que regarde, il est chaud.
J'ai assisté à c'est le choc de ma vie.
De quoi?
J'ai assisté à une accélération physique de Paul Mirabel dans le couloir.
Il est tombé.
Non.
Il a
accéléré. Mais faut dire, le mec, il a des jambes de 2 mètres chacune. Donc, il a fait une enjambée, je l'ai plus vu.
Bah, c'est ça, il est au-dessus de toi.
Bibi le coyote, je vais t'appeler.
Oui.
C'est fou.
Oui,
t'accélères pas souvent, et quand t'accélères, c'est sérieux.
Ça y va.
Ouais.
Mbappé, on m'appelle dans le milieu.
Usain Bolt, on t'appelle Usain Bolt du stand-up. Ouais. Très bien.
On commence.
Le blind test.
C'est quoi le
qui chante ça?
Daniel?
Oui.
David Bowie?
Bah oui.
Alors le thème, Rebel.
Ah, David contre Goliath.
Joli.
Leïla.
Oui.
C'est le fils à l'idée.
Alors ça c'est réducteur.
Je sais, mais
Morgane.
C'est David.
En fait, tu as trouvé le thème. Tu sais que le thème est David.
Oui, je sais, mais
tu dis, il s'appelle à l'idée, mais je ne sais plus quel est son prénom.
Oui, mais c'est...
Tu ne m'as pas laissé le temps de
T'as la voix qui va avec aujourd'hui. Hein.
Et tout ce que tu me manques.
Qui chante ça?
Morgane, c'est Sia et David Guetta, c'est italien.
C'est qui, Sia? Si vous avez un nez à vendre, Leïla est intéressée.
C'est le monde qui a craqué. Il a cette vie sur elle.
Hein. Il est ouvert.
On l'appelle le Sphinx maintenant.
Ou Elton John.
Paul.
Oui.
Daniel, au cas où.
Non, Paul.
Daniel.
Quoi? Words de.
Oui. Oui.
Je sais pas comment on dit. La fleur David.
C'est ça.
Don't come easy.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme chanson connue?
Ah, alors il a fait ça.
Il a pas fait un best-of?
Franchement.
Il est sorti un best-of 2 ans plus tard.
Il a fait une grande tournée, c'est pour ça qu'on l'a pas vu pendant longtemps. Et après, il a surtout fait.
Ah, c'était ça, ouais, je pensais à celle-là.
C'est nul. Franchement, je ne sais pas.
Il n'y a pas une reprise.
Alors, j'ai en exclusivité son futur titre. C'est ça.
Ah, c'est crétin, mais ça marche.
Mais je pense que ça peut marcher sur moi, en tout cas.
Ça marche tous les deux, hein.
Oui,
c'est un duo, là.
C'est, on se fait plaisir.
Vous faites un stand-up à deux, là.
Qui chante ça?
David Larousseau.
Non. C'est forcément David, en tout cas.
Ah oui.
David?
Ouais.
Oui.
Alors, je vais vous aider. Il a fait partie d'un groupe, donc ça peut être le groupe aussi.
Gilmour.
Exactement. Le groupe.
Le groupe Les Chaussettes Noires.
Plus connu sous le nom de Pink Floyd.
Ah oui, c'est ça.
Shine on your crazy diamonds, David Gilmour. Il n'y a que des David pour faire ce clin d'œil au film Goliath dont nous avons parlé.
Goliath, tu l'as fait pour moi.
C'est le super banco ou pas? Non.
Non.
Leïla.
Oui.
Tonton David.
Joli.
Bravo.
Deux points pour les lèvres. Morgan pour Paul Mirabel. Attention, maintenant, c'est le super banco. Donnez-moi ce David.
Ça va m'énerver.
Ouais, je sais pas le nom, moi je saurais pas le nom.
Morgan, Greg David.
Mais oui.
Il existe vraiment?
Victoire de Morgane Gadignan et merci d'accueillir Emmanuel Bertrand, Pierre Ninet.
Bravo. La bande originale avec Nadie.
David contre Goliath, c'est exactement ce qu'a voulu sous-entendre Frédéric Tellier avec ce titre Goliath. Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour.
Pierre Ninet, merci de venir nous parler de ce film où vous êtes le méchant.
Et quel méchant.
Le mec, il a des convictions, il a un boulot, tout de suite, un méchant.
Je suis d'accord.
Merci.
Je suis assez d'accord avec cette vision des choses.
Non, mais c'est ça, mais ça va tellement bien avec l'être inhumain que vous êtes. Et vous, Emmanuel Berco, vous subissez l'épandage de vos voisins sans être directement une agricultrice.
Ouais.
Merci. Et le film sort demain.
Merci.
Bonne journée.
Merci.
Non, elle est prof de sport le jour. Elle travaille dans un entrepôt la nuit.
Elle a plusieurs boulots parce qu'elle n'arrive pas justement à
joindre
les deux
bouts. Parce que son mari a chopé le cancer à cause des pesticides, des épandages de pesticides autour de chez eux. Et elle est obligée d'avoir deux boulots pour joindre les deux bouts.
Et cette histoire est tristement vraie, c'est-à-dire que c'est un dossier qui a existé, et pas si longtemps, c'est il y a 3-4 ans encore, il y avait l'affaire des bébés sans bras, des enfants sans bras, qui sont nés dans différentes régions en France, parlons que de la France déjà dans un premier temps, avec ces pesticides qui sont, il y a des tonnes de rapports qui disent non mais tout va bien, des scientifiques qui disent il y a aucun risque, et il suffit qu'il y ait une étude qui révèle la dangerosité de ces produits pour être évidemment balayé du revers de la main par ces lobbyistes. Et ces lobbyistes, c'est ce qui est intéressant dans le film, surtout dans une période comme celle que nous vivons, c'est une période électorale, une période de promesses, une période de prise de parole de la voix politique face à la voix démocratique qui va s'exprimer. On se rend compte que tout est manipulé par les intérêts financiers, par des personnes qui écrivent même des textes et des propos qui se retrouvent être les mêmes dans l'argumentaire commercial et dans le discours d'un homme politique dans un journal. De 20h
à la télé. Tout à fait, c'est assez flippant et vertigineux. Moi, quand j'ai commencé à discuter avec des lobbyistes, déjà c'était très difficile parce que évidemment,
c'est secret normalement. Non
voilà, un bon lobbyiste et il exerce son métier de façon discrète et dans les coulisses du pouvoir.
Ouais.
Déjà symboliquement, moi je trouve ça hallucinant. T'as le Parlement européen. Et tous les bâtiments autour, c'est tous les lobbies du monde entier.
Même à l'intérieur,
qui entourent.
À l'intérieur du Parlement.
Et voilà, ils rentrent jusque dans le Parlement. Dans déjà, géographiquement, c'est dingue, quoi. Tous les bureaux des tous les plus gros lobbies entourent, en cercle. Je peux pas dire mieux.
Sont physiquement autour de l'Assemblée. Ouais.
Parce qu'a priori, un lobby, c'est pas forcément péjoratif.
Non.
Ça peut être, on peut être là, c'est des interlocuteurs pour essayer de faire
Ça peut être un hall d'hôtel, déjà, à la base.
Bah, en fait, ça vient de là.
C'est ça.
Ça vient de là, C'est les gens qui étaient dans l'antichambre des hôtels ou des institutions public et qui essayait d'influencer les députés, les sénateurs et qui étaient dans le lobby. Mais maintenant, on leur a laissé un accès beaucoup plus grand que juste le lobby.
Ils ont la suite présidentielle.
Bah, clairement, c'est un peu ça, malheureusement. Mais après, quand vous dites je joue le méchant, j'ai toujours un peu du mal avec cette intro parce que, évidemment, quand on est acteur et qu'on veut incarner quelqu'un, l'idée c'est de. Ça va être bizarre le terme que j'ai employé, mais rendre justice quand même à ce type-là, malgré les choix très amoureux qu'il peut faire.
Il a une vie particulière. Il essaye, alors toujours avec l'argent quand même, il essaye de convaincre les opinions avec l'argent et avec des contrats et par moments des menaces. Et y compris dans sa vie privée, il est le beau papa qui, par l'argent, essaye d'obtenir l'amour ou la reconnaissance de sa belle-fille. C'est son mode de fonctionnement.
Je pense que c'est peut-être en référence à une scène où je leur achète des places de concert pour Ariana Grande et tout ça.
Bah
je pense
10, que c'est pas pour une personne,
non,
c'est
mais
pour
carrément.
10.
Mais je pense que justement il est dans un. L'idée était de pas être manichéen et évidemment de nuancer, de montrer qu'un lobbyiste qui défend les pesticides peut être évidemment questionnable sur le jeu de valeurs dont il fait preuve dans son métier. Et en même temps, à côté, un super papa, un mari prévenant, sans doute un voisin charmant.
Parce que là, c'est typiquement du délit de sale gueule. C'est parce qu'il a un métier que tout le monde lui reproche. Là, du coup, quand il est généreux avec sa belle-fille, on fait ah, il essaye de l'acheter.
Non, je suis pas d'accord.
Non, mais moi, j'aime bien que ça crée du débat. En tout cas,
je suis pas d'accord. Je disais simplement que il est peut-être humainement, il essaye d'être en tout cas le bon papa, le gentil bon papa, mais son mode de fonctionnement, de se dire que l'argent achète tout,
c'est peut-être une déformation professionnelle.
Voilà, c'est ça. Il achète un tout petit peu l'amour. Alors après, c'est pas en faisant des gros et des beaux cadeaux que forcément on sera un formidable papa, mais en tout cas, c'est son mode de fonctionnement. Ça n'enlève en rien le fait qu'il cherche à être un papa gentil, qui fait des blagues, des surprises, qui fait croire qu'il est dans un Thalys qui l'emmène à Bruxelles et qu'il pourra pas venir à l'anniversaire. Finalement, il vient. Il est mignon avec son bébé dans les bras.
Mais il n'est pas complètement omniprésent non plus, parce que ça l'arrange plutôt. Il n'est pas étouffant. Ça l'arrange de voir sa femme de temps en temps, ou pas tous les jours,
Et de l'autre côté, il y a, et c'est, ça se voit même avec le traitement de l'image, de la réalisation de la lumière, le grain n'est pas le même quand l'image est plutôt froide, quand elle est filmée sur les lobbyistes et sur les politiques, et elle est plutôt naturelle, belle et presque chaude et de rêve lorsqu'il s'agit de la campagne, de la lumière, malgré la noirceur de la vie. Et le combat de cette femme que vous incarnez, Emmanuel, est particulièrement bouleversant, parce que il y a une espèce de quotidienneté, c'est-à-dire tous les jours il y a quelque chose en plus qui vient la blesser, qui vient blesser ses voisins, sa famille, qui vient la frapper avec un sentiment permanent d'injustice et de ne rien pouvoir faire.
Il y a un sentiment permanent d'injustice, mais oui, comme vous le dites, de rien pouvoir faire, pas de rien pouvoir faire, mais de faire des choses et qui n'aboutissent pas, en fait, on le voit à tous les niveaux, même nous qui ne sommes pas directement victimes des pesticides. Je trouve qu'en politique, on a toujours l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on se bouge, quoi qu'on dise, comme la parole se libère, mais les oreilles sont pas tellement ouvertes, quoi. Donc au bout d'un moment, ça, c'est vrai que ça rend fou. Et c'est vrai qu'elle assiste à des réunions. Il y a plein de choses qui se font. C'est ça qui est terrible. C'est pas que rien ne se fait. Il se fait plein de choses et on la voit assister à des réunions dans sa région avec des gens qui ont envie de faire des choses, qui distribuent des tracts, etc. Mais à un moment, elle dit, mais ça sert à rien, ça bouge pas, on en est toujours au même point. Ils continuent à répandre des pesticides, c'est toujours pas interdit à la vente, ça bouge pas, il faut passer à l'action, là, et passer à l'action.
Ouais, mais le problème est toujours le même, c'est-à-dire que les agriculteurs sont eux-mêmes pris entre deux feux, entre le marteau et l'enclume, du rendement, de l'obligation de rendement, et tout ça pour arriver à des salaires de misère malgré la vie et les heures passées à se fatiguer, à se démener. Et de l'autre côté, on les accuse d'être des assassins qui mettent des produits dangereux pour déjà pour eux-mêmes, mais aussi pour les consommateurs. Il y a un moment, il y a une scène dans le film où il y a une personne qui intervient dans une réunion interministérielle et qui explique le nombre de couches sur chaque tomate, sur chaque pomme de terre, sur chaque salade, que l'on finit nous par ingurgiter évidemment. Et puis là, récemment, il y a encore une histoire de pain de mie dans les supermarchés avec des produits cancérigènes qui sont là-dedans. Il dit, ah ben on va les retirer de la vente parce qu'on a découvert qu'il y avait des produits cancérigènes dedans. Donc ça touche tout le monde, mais personne ne s'en rend forcément compte directement, à part ceux qui sont pris entre le marteau et l'enclume. Je parle des agriculteurs.
Oui, mais les agriculteurs, ils sont... Moi, c'est une phrase qu'on me dit dans le film, mais lui aussi, il est victime en parlant du paysan d'à côté. Et moi, c'est vrai que c'est une chose que j'ai apprise... en faisant ce film, en fait, moi, j'avais une vision un peu manichéenne du truc. C'est pas du tout ça. Je vais laisser Pierre parler parce qu'il est hyper compétent sur le sujet. Mais les agriculteurs, ils sont victimes du système au même titre que les citoyens, bien sûr.
On peut pas dire que les non mais c'est-à-dire que c'est
le raccourci
de dire les agriculteurs mettent des pesticides donc c'est eux les assassins,
bien sûr.
Évidemment, est totalement faux.
Je nuancerai un tout petit peu quand même,
pour une fois.
Non mais je nuancerai. Moi j'habite à la campagne et cette thématique me parle depuis avant le film. C'est pour ça que j'étais super heureux de pouvoir raconter tout ça dans un film et d'essayer de nuancer comme ça l'est, je l'espère, dans le film. Effectivement, ils sont à la fois victimes et quand même aussi coupables, puisqu'il y en a quand même qui passent au bio et qu'ils font. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont pas du tout aidés. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'aide.
Avec quel moyen, voilà, c'est ça.
Avec des retards de paiement sur les aides au bio, il faut mettre leur champ en jachère pendant 2 ans. C'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est un acte de foi de passer à du sans pesticides, qui devrait être la norme, qui devrait être ce qu'on appelle agriculture classique ou traditionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, tous les jeunes agriculteurs, quand tu veux être agriculteur, aujourd'hui en France, on te parle rendement, pesticides, on te parle que de ça.
Et puis il y a la loi, il y a cet avocat interprété par Gilles Lelouch qui est en faisant le mec, il est au bout du rouleau, quoi.
Non,
il est débraillé, il est même plus.
Il faut le débrancher.
C'est plus à sa taille, il est frais.
Ouais, c'est ça, le gilet.
Il faut le repasser.
Il a quand même le gilet en bras. brassière, le mec. Absolument.
Il est taille 12 ans. Hein,
il est au bord du gouffre. Mais en l'occurrence, il a une conviction. Ah bah c'est plus le Gilles Lelouch qu'on a connu.
Il l'a assumé à fond. Moi j'adore.
On est pas loin d'Obélix. Hein. On est sur un tournage qui se chevauche.
La transition.
Hein, non mais blague à part, l'interprétation formidable de cet avocat qui voit passer d'abord les lobbyistes, les puissants entre guillemets qui achètent des témoignages, qui achètent le silence à coup de 200 000, 300 000 euros. Alors évidemment que c'est une somme totalement dingue pour des gens qui sont dans le besoin, et c'est une goutte d'eau pour les milliards mis en jeu sur ces produits mis en vente. Et chaque fois qu'il y a une possibilité, en tout cas d'être entendu, le sentiment que ce combat est vain et que la loi ne peut rien d'un côté comme de l'autre, que ce soit vis-à-vis des politiques, que ce soit avec le soutien des agriculteurs qui portent plainte ou qui veulent attaquer. Il est un peu c'est vraiment David contre Goliath, quoi. C'est le pot de terre, le pot de fer. Il n'arrive même pas à se battre. On le soutient même pas dans son combat, finalement. Mais non, parce que il y a des familles qui se retirent.
Non, c'est vrai. Il y a une scène. Et moi, je trouve que c'est une des plus belles scènes du film. C'est parents, quand l'avocat fait face aux parents d'une victime qui ont décidé finalement de céder à l'argent qu'il leur est proposé. Donc, je spoil pas, mais la scène est incroyable, je trouve, entre Gilles et les parents, justement de dépit de cet avocat qui voulait se battre et qui se fait lâcher parce que les gens sont achetés et que, comme vous disiez, ça représente des sommes d'argent énormes pour eux.
Ils sont achetés, mais on les comprend.
Elles sont. Voilà.
La somme d'argent est énorme pour les parents. Elle est ridicule pour l'industrie business, chimique qui s'en sert. C'est toujours l'argent le plus fort, finalement. L'arme, là-dedans, la plus dingue, c'est l'argent. C'est pas tant le pesticide, les lobbies et compagnie. C'est que une histoire d'argent à tous les niveaux.
C'est pour ça qu'on aimerait bien que les modèles changent et est-ce que j'y crois à fond en vous disant ça? Non. Mais ce serait bien que les modèles qu'on offre à nos enfants, aux nouvelles générations, ne tournent pas absolument que autour de ça, quoi. Mais un gros travail.
Pour reprendre une phrase dite par l'avocat, donc interprété par Gilles Lelouch, on peut pas dire qu'on savait pas. C'est aussi la force de ce film. C'est une histoire vraie. Alors, toutes les précautions sont prises en ouverture du film, c'est-à-dire que tout est vrai, même si c'est une fiction, mais toute ressemblance n'est pas du tout fortuite. C'est ça, je trouve ça formidablement malin, parce que ça reste aussi un film avec sa part de fiction, sa part de beauté dans la manière de réaliser, de pureté de la nature. C'est un vrai message aussi d'amour pour la nature, mais aussi pour les êtres humains qui sont victimes de ces épandages et en même temps qui vivent de la nature, avec la nature au contact d'elle.
C'est de l'argent, mais c'est pas que de l'argent aussi, c'est un monde de voyous en fait, parce que c'est ça qu'on voit dans le film, c'est de la violence physique.
C'est des voyous VIP quand même.
Ouais, mais ça reste des voyous parce que
c'est ce qu'on appelle la criminalité en col blanc.
Voilà,
c'est ça.
Ce sont des armes de voyous, c'est faire appel à faire des pressions, c'est éventuellement en venir aux mains, parce qu'on le voit aussi dans le film, au-delà de l'argent aussi.
Quand les gens comprennent pas.
C'est faire peser le doute.
Voilà. Juste pragmatique, c'est tout.
Et c'est
faire peser le doute sur l'avocat aussi, sur essayer de remonter dans les histoires de l'avocat par le passé, voir qui l'a défendu, pour jeter le discrédit sur cette personne, pour que les parents, pour le coup, se disent il est pas net, il est pas clair, c'est le prendre en photo dans cette situation délicate.
Vraiment d'une évolution dans le film, dans sa réalisation et dans sa lumière. Au début, on est très proche de l'humain, d'un cinéma un peu réalité. Puis ça devient de plus en plus un thriller avec un côté noir et tendu et anxiogène, comme la situation vécue d'ailleurs de part et d'autre, hein, parce qu'ils sont pas bien dans leur pompe, hein, les uns et les autres, là-dedans, sans accuser qui que ce soit. Goliath sort demain, c'est au cinéma. Emmanuel Berco et Pierre Ninet sont nos invités. On va continuer d'en parler avec eux. On est ravis, évidemment, de vous accueillir, surtout vous, Emmanuel. C'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane Cadignan. Est-ce que Morgane ne vous aime pas, figurez-vous, Emmanuel? Allez. Et Pierre?
Non, toujours pas. Pierre Ninet, Emmanuel Barco, je vous aime pas. En plus, Emmanuel, vous jouez une opposante à un salaud de lobbyiste dans un film social, alors qu'au fond, pardon, mais la promo d'un film, est-ce que c'est pas un peu du lobbyisme culturel, finalement? Heureusement, le film, il est très bon, mais va falloir me refaire un truc léger, Pierre Ninet, là. Parce que après Boîte Noire, moi, je commence un peu à m'inquiéter de vous voir constamment en costume, en train de froncer les sourcils, les traits un peu tirés, parce que on est là, on joue bien, c'est excellent, on s'engage, mais faut faire gaffe à pas devenir Vincent Lindon à 32 ans.
pas trop vite.
C'est ce que je me dis.
D'ailleurs, en parlant de légèreté, Emmanuel Barco, je tenais à vous redire que de son vivant que vous êtes venu dans cette émission nous présenter fin novembre. Ouais. Et donc, j'ai vu fin novembre et bah, je m'en suis remise avant-hier. Je me rappelle l'émission à l'époque, ma mère m'avait dit putain, c'était chiant, je captais super mal Inter, ça coupait vachement. Ah non, ça captait très bien, ça coupait pas du tout, c'est juste qu'on était tous en train de chouiner et qu'on pouvait pas parler. Et Pierre, dans ce film, vous campez un lobbyiste et en fait, ce sont les premiers influenceurs, les gars. Excusez-moi, mais ça fait 10 piges qu'on tape sur Nabila, alors qu'il y a des gars qui, depuis bien plus longtemps, vont à l'Élysée pour dire franchement, le super samplon dans les couches, bah moi je trouve que ça aide les bébés à marcher plus vite. Si c'est couplé, bien sûr, avec du lait maternel aux extraits de merde. Oui, parce qu'on est en 2022, on va dire les mots, nous les lobbyistes, on va avoir l'honnêteté de plus mettre de termes scientifiques sur les produits qu'on vous fait manger, boire, inhaler, respirer. C'est de la merde. Mais regardez, j'ai un costume de Fursac et je suis rasée de très 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 près. Donc si je vous dis que la merde, ça aide à faire pousser les carottes, croyez-moi, bon Dieu. De merde. Je dis beaucoup de merde dans cette chronique, mais honnêtement, vu la période et l'actualité, si je commence à lancer une chenille dans le studio, on n'est plus dans le thème de ce début d'année, mais c'est pas grave, on va rester sur la merde, parce qu'on a des armes maintenant pour lutter contre ces produits éventuellement de merde, et que les lobbies ont réussi à faire rentrer dans notre quotidien la conscience, l'envie de renverser le système, des mouvements massifs de boycott sur certains produits. Non, on a Yuka, mon gars. Tu vas faire quoi? Moi, je vais aller au sous-sol de mon Monoprix, t'entends? Je vais me rendre compte qu'on capte pas. Je vais prendre le déodorant. Je vais remonter à l'étage sur le trottoir, sortir mon arme de service anti-lobby, scanner le code barre de mon déo, me rendre compte qu'à l'intérieur de ce déodorant, il y a tout bonnement des bouts de cancer. Pas un produit qui contribue à, non, des morceaux de cancer carrément en spray. Et qu'est-ce que je vais faire contre ça? Eh ben, je vais l'acheter quand même. Parce que la pierre d'Alain me permettra de vivre plus vieille, mais en puant un tout petit peu. Et ça, bah non, c'est non, quoi. Et c'est ça, les amis, la force du lobby. Je commence une chronique en disant que c'est terrible, qu'il s'infiltre dans tellement de facettes du quotidien. Et je termine la chronique en disant qu'après tout, on peut pas faire grand chose. Donc allez voir Goliath et si vous en ressortez scandalisé avec l'envie de vous battre, pas besoin de passer cette envie au Yuka, gardez-la.
Merci Morgane Guetlien.
Et Morgane, tu es sur scène?
Souvent.
Mais elles sont bonnes. J'avais oublié, pardon.
Mais elles sont bonnes.
J'ai pas de date, en fait.
Mais c'est vrai, ce sentiment, vous avez dû le ressentir, peut-être en faisant des avant-premières et en discutant avec le public, si ça a été le cas de ces avant-premières, c'est que on sort de là, on a envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. Alors, peut-être que ça ne dure que 10 minutes et qu'après, on se calme rapidement. Mais ça donne ce sentiment, Emmanuel, d'avoir envie de se battre. J'imagine c'est le même sentiment quand on incarne et quand on joue dans ce film.
Ouais, alors beaucoup de gens disent qu'ils prennent une claque avec ce film. Et
Parce que tout est vrai.
Alors le film est archi documenté, voilà. c'est un vrai film de fiction et la force du film pour moi c'est qu'il passe à travers des personnages, c'est un film humaniste. C'est pas juste un film, faut pas faire peur aux gens en pensant que c'est un film technique, etc. C'est avant tout l'histoire de trois êtres humains et même plus que ça parce qu'il y a d'autres personnages importants dans le film. Mais oui, je pense que cette claque, c'est d'abord une prise de conscience. On est tous un peu informés, plus ou moins. Mais il y a des gens qui découvrent énormément de choses à travers ce film.
La force de ce film, c'est qu'il ramène à une dimension humaine quelque chose et des comportements et des intérêts totalement
inhumains.
Non, mais ça, mais ça ramène. Je pense au personnage de Laurent Stoker. Ça amène cette dimension humaine à quelque niveau que ce soit.
Mais oui, mais même le personnage de Pierre Ninet, moi, je sais que je me suis énormément attachée à son personnage autant qu'à celui de Gilles Lelouch, qui peut être de prime abord plus sympathique, parce que la force du cinéma de Frédéric Tellier, c'est qu'il fait toujours passer les choses par l'humain, si possible par les émotions et par l'identification qu'on peut trouver avec chacun des personnages.
Vous
Pierre
déjà...
Ninet, il est charmant dans le film et c'est une idée.
C'est pour ça que c'est une
super
fiction.
Même si c'était pas le rôle qu'il devait faire au départ, c'est une idée super de lui avoir confié à lui ce rôle-là.
Comment ça, c'était pas le rôle qu'il devait faire au départ?
On a un peu fait les chaises musicales avec les rôles. Ouais. Moi, Frédéric, quand il m'a proposé le film, il m'a proposé de jouer le rôle d'Emmanuel. Donc habillé en femme et tout, je lui ai dit, gars, t'es sûr de ton coup? Non, mais plus sérieusement, il m'a proposé de jouer l'activiste. Il m'avait visualisé dans l'activiste. D'accord. Il avait proposé à Gilles le lobbyiste et à Emmanuel l'avocate.
D'accord.
Et ensuite, on a tous changé. Ouais, Gilles avait fait Monsieur Hoffman. Il disait, ah, non, mais je vais pas faire Monsieur Hoffman puis un lobbyiste. Les gens vont vraiment me détester à la fin.
C'est vrai.
Moi, je lui ai dit, j'adore le rôle du lobbyiste. Je trouve ça passionnant humainement, moralement, les questions que ça pose. J'aimerais beaucoup faire le lobbyiste. Et Emmanuel s'est retrouvé un peu baladé, la pauvre. Mais c'est incroyable. Mais du coup, elle atterrit sur un rôle où elle est extraordinaire, donc.
Mais clairement. Mais de toute façon, vous êtes tous capables de jouer tous les personnages. Ce qui est incroyable, c'est que c'est l'ouverture d'esprit, j'ai envie de dire, de Frédéric Tellier qui vous écoute.
Oui, manque de conviction, aussi. Hein. Je sais pas qui m'a dit.
Non, mais c'est fort de vous suivre aussi dans vos envies.
Carrément.
Même ouais, si c'est pas qu'une histoire de plan de carrière. C'est juste un ressenti avec, j'ai envie d'incarner, de porter, pas forcément le gentil ou le méchant. Mais en tout cas, de porter un personnage. Vous avez déjà travaillé avec lui dans Sauver ou Périr, et c'était il fonctionne toujours comme ça dans l'échange. Et
il est vraiment, il donne une confiance et un respect aussi à ses acteurs tellement énorme qu'on est très responsabilisé sur le projet. Moi, j'adore ça. Et aussi, il nous parle du projet tôt, en fait. Moi, pour Goliath, il m'en a parlé très tôt. C'était même pas, il était même pas fini d'être écrit le scénario. Donc, en fait, il a l'envie d'aller vers des acteurs, il a envie de travailler avec nous. Et après, c'est pas du tout secondaire les rôles, mais on avait envie de s'embarquer sur ce projet à fond. Et lui avait envie de nous embarquer, mais c'était...
Et l'affaire S15, en fait, vous êtes un peu son acteur fétiche.
Quoi. Non, j'étais pas dedans, moi, j'étais pas dans S15.
C'était Raphaël Persona.
Ah, c'est Raphaël Persona. Ah oui, c'est vrai que
vraiment,
c'était bien.
Un respect total depuis le début de l'émission. C'était vraiment plaisir.
Mais le film était bien. Le film était bien.
C'est le 3. Le film est malgré tout bien, ce qui est surprenant, même. C'est vrai que les films où je suis pas.
Tous surpris.
Non, il y a quelques films bien où je suis pas, mais c'est quand même Le Parrain.
Les étrangers,
Le Parrain.
Les films étrangers,
Star Wars. Ils vous copient Pacino.
Mais Pacino a pas mal pompé le truc, il pompe pas mal, c'est vrai. Et De son vivant qui était bien aussi, mais.
Gilles Lelouch, Emmanuel Berco, Laurent Stocker, Chloé Stéphanie, Marie Gillin, Yannick Régnier, Jacques Perrin. Lui aussi qui interprète un scientifique, quelqu'un qui était dans la fabrication, dans la chimie. Finalement de tous ces produits, qui est au courant de tout, et c'est peut-être là aussi l'un des autres drames, c'est-à-dire que les êtres humains qui ont fabriqué, ça, je pense un peu à cette notion d'Albert Einstein qui fabrique une bombe et qui après se rend compte de l'horreur qu'il peut provoquer avec une bombe nucléaire et qui peut s'en vouloir, c'est un peu la même situation vécue par Jacques Perrin, mais qui a signé un contrat de silence et qui est tiraillé. Et il y a aussi chaque personnage finalement à son suspense, à sa ligne, à son intrigue, en se demandant qui va basculer de quel côté, qui va céder, qui va se battre, qui va gagner, qui va perdre. Et c'est ce qui fait la réussite de ce film. Et surtout, ce qui fait la réussite du film, c'est que vous n'en sortez pas exactement le même qu'en étant rentré dans la salle, et que ça provoque des discussions, des échanges en tout cas. Et que c'est une période intéressante. Toutes les périodes sont intéressantes pour aller au cinéma, mais là encore plus dans une période d'élection où on se dit que il doit y avoir 2-3 lobbyistes aussi qui donnent des phrases, des
verbatim.
Mais tous, on a tous répété des arguments que des lobbyistes ont mis dans la tête, même sans le savoir. Il y a tellement de choses qu'on répète et on se rend pas compte. Et la grande qualité d'un bon lobbyiste, ce que j'ai compris en travaillant le rôle, c'est que plus t'arrives à trouver des arguments simples mais viraux, c'est-à-dire qu'ils vont circuler très largement dans la population, plus t'es fort en fait. Et l'agribashing, il y a tellement de trucs en fait quand on parle justement des paysans qui sont aussi, les agriculteurs qui sont aussi victimes, c'est réel, mais eux ils le déforment un peu à leur sauce. L'agribashing, l'idée c'est de dire la population française ou une grande partie serait contre les agriculteurs, on détesterait les agriculteurs. Alors que moi je pense que la grande partie des Français ils trouvent que être cultiver la terre c'est un métier absolument magnifique et noble. Ouais. Le problème il n'est pas là.
C'est l'intensivité avec laquelle les choses se font, c'est l'industrialisation et les obligations de résultats.
Exactement. Donc en fait on essaie de mettre en faire s'affronter et la population et les agriculteurs et en disant c'est ça le problème, mais c'est évidemment pas le cœur du problème.
Le film montre bien que les premières victimes sont les agriculteurs, parce qu'ils non seulement ils sont victimes en subissant ces produits directement sur leur propre santé et celle de leurs enfants, mais ils sont victimes à cause des moyens et d'être pressés, oppressés, d'avoir une obligation de résultat et de ne pas avoir d'autre choix que de s'abîmer ou de risquer leur propre vie.
Et votre personnage fait une démonstration géniale sur le diesel dès le début du film, comment justifier
et sur les bonbons.
D'avoir recours encore au diesel et de laisser tomber l'électrique. On pourrait se dire sur le papier, vraisemblablement l'électrique c'est ce qu'il y a de plus propre, c'est ce qui va faire en sorte que notre planète se porte le mieux possible. Et là, c'est là que l'art en fait du lobbyiste que vous incarnez intervient en fait. Quel est l'argument qu'il utilise ?
Bah non, il dit que dans le cas concret de au Japon, ils avaient arrêté le diesel pour passer à l'électrique et qu'en fait ils se sont rendus compte dans un cas concret qu'il fallait revenir en arrière et qui maintenant ils reviennent au diesel parce qu'en fait les batteries,
la production des batteries
en fait c'est dans des conditions horribles, des enfants qui travaillent dans des mines, dans des conditions atroces
mine
à l'autre bout du monde,
de lithium, cobalt, voilà. C'est ça.
Exactement. Donc mais il peut tout démonter parce que
c'est
par pur sophisme, exactement.
C'est la sophistique en fait. Ouais.
C'est par pur sophisme, mais il est capable de, et je pense qu'il y a une excitation chez ces lobbyistes intellectuels aussi à être bon à ça, à être bon au fait de pouvoir défendre tout ou rien. On le voit, Thierry Coste qui Thierry Coste le dit, hein, Thierry Coste qui est le lobbyiste de de la chasse, parce qu'il faut bien savoir que quand même c'est deux choses très très différentes, c'est-à-dire que dans le monde rural les gens aimeraient bien se promener le dimanche en forêt, hein, la plupart en fait, et une minorité aimerait plutôt tuer des animaux en voie de disparition avec des fusils, c'est vraiment deux mondes en fait. Et Thierry Coste lui le dit, il le dit dans des reportages, hein, y a qu'à aller voir sur internet. Et moi, ça m'a vachement servi pour préparer. Il dit, moi, je peux défendre ça, et le lendemain, le contraire, c'est au plus offrant, quoi.
Donc, il a même dit, sans doute après un petit apéro, que si on voulait faire croire que la chasse faisait du bien à la nature, il avait réussi à faire croire ça, alors que c'est totalement faux. Il assume totalement aussi le plaisir de la chasse et de tuer. Sauf que le résultat a été auprès de nos gouvernements d'obtenir l'autorisation, petit 1, de tuer plus d'espèces que n'importe quel autre pays d'Europe, petit 2, de réduire le permis de chasse, et puis maintenant, petit 3.
Le prix, oui.
Parce que c'est un électorat.
Oui, c'est un électorat qui représente 2-3 millions
il n'est pas négligeable à l'approche d'une élection.
De personnes. Et
dans le calcul.
Absolument. Goliath, vous voyez que ce film fait réfléchir et fait discuter. En tout cas, il est à voir absolument. C'est ce 9 mars, ce mercredi.
C'est demain. C'est demain, non ?
C'est un dodo, oui. Un dodo, et vous pourrez voir le film.
Il faut expliquer simplement, sinon moi je comprends plus.
Voici Paul Mirabel.
Ah oui, Paul !
Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Super.
Bah écoutez, moi aussi ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais pas si vous vous en souvenez, on s'est vu juste avant la Troisième Guerre mondiale, quand tout le monde croyait encore que Donbass était le nom de famille d'une chanteuse, Ariel Donbass. Là je sais que c'est pour ce genre de blague approximative que vous êtes en train de dire, on a bien fait de le recruter chez France Inter. Non, je suis assez ému de vous voir en vrai, Pierre et Emmanuel, puisqu'en ce moment dans Paris il y a plus d'affiches pour Goliath que de feux rouges. Oui, je crois que même Poutine a vu les affiches et s'est dit, honnêtement, en termes de propagande, c'est un peu exagéré. Vous êtes vraiment partout en ce moment. Ce matin, j'ai ouvert mon frigo, il y avait Pierre Ninet à l'intérieur. J'étais très étonné. Non, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Nagui, parce que figurez-vous que moi aussi, j'étais en tournage pour un film.
Ah.
Oui, j'ai bien vu, Pierre, qu'en voyant, vous ai dit, tiens, un collègue. Et Emmanuel d'ajouter, effectivement, je crois que j'ai déjà vu ce garçon au cinéma. Et c'est bien observé, parce que c'est vrai que je vais souvent au Gaumont de Porte de la Villette. Non, c'est un film qui a été tourné pour une plateforme. Alors, je peux pas dire laquelle, par contre, parce qu'il y a évidemment il y a des clauses de confidentialité et qu'après ils vont plus me livrer mes colis chez moi, surtout. Non,
Disney.
Oui, voilà. J'étais le 34e rôle de ce film en plus, sachant que pour vous situer, la description du 33e c'était homme bizarre et le 35e c'était un chien, chien qui avait fait plus de films que moi dans sa vie. C'est la première fois que je voyais un chien aller au maquillage, d'ailleurs. Donc, ne vous étonnez pas, Nagui, si vous me trouvez un peu changé. C'est assez fréquent chez les acteurs, parce que j'ai un peu de mal à sortir de mon personnage en ce moment. Figurez-vous que j'en ai profité pour apprendre le vocabulaire du cinéma à l'occasion de ce tournage, parce que c'est un lexique assez spécifique. Par exemple, il y a une script qui m'a dit là, il y a un faux raccord sur le plateau. Moi, j'ai commencé à chercher avec elle, puis je me suis rendu compte qu'après, en fait, c'est moi le faux raccord. Mais heureusement, je n'ai entendu que des compliments de la part des réalisateurs, tels que on l'a refait, ou t'inquiète pas, ce sera coupé au montage. Je crois que j'ai compris comment faire pour être un bon réalisateur. D'ailleurs, je vous partage l'astuce. Il suffit de mettre une casquette, et quand tu sais pas trop où tu en es, tu fais un V avec tes doigts et tu dis bon ben là on va changer d'axe comme ça, ou sinon tu regardes la luminosité et tu dis ben là je crois qu'on va être battu. Mais ce qui est beau dans le cinéma, je trouve que c'est que ça offre la possibilité d'inventer tous les univers possibles. Je vous dis ça parce que l'autre jour je suis tombé par hasard sur un film qui s'intitule Saucisse Party. Peut-être certains ou certaines d'entre vous l'ont lu.
Non,
alors comme son nom l'indique, c'est pas un film de Jacques Audiard. Je vous résume l'intrigue, c'est l'histoire d'une saucisse qui vit dans un supermarché et son but c'est de se rendre dans le rayon pain de mie pour se marier avec une brioche. Voilà, alors j'ai conscience que vous êtes en train de vous dire, est-ce que ce garçon a pris de l'ecstasy, mais figurez-vous que pas du tout, c'est le vrai synopsis du film. Ce qui m'embête juste dans cette histoire, c'est qu'une fois j'ai essayé d'écrire un scénario, on m'a dit non, le héros qui tombe par hasard sur la femme de sa vie au supermarché, c'est pas très crédible. Donc je suis ravi de découvrir qu'une saucisse qui veut se marier avec une brioche, poche salée. Mais c'est une bonne leçon. Je crois qu'il faut s'habituer au fait qu'on vit dans une époque relativement étonnante. Vous avez peut-être vu passer cette information. Récemment, il y a un individu qui s'est filmé en train de twerker dans une église. Vous avez
ouais.
vu ça?
Ouais, c'est choquant même.
Oui, moi, c'est là où j'ai réalisé que 2022 était une année un peu particulière, puisqu'on m'a appelé au téléphone, on m'a dit, Paul, t'as vu, il y a quelqu'un qui a twerké dans une église, et ça m'a pas étonné plus que ça. Et j'ai dit, bon, ok, mais là, je suis en train de regarder un film sur des saucisses, donc laisse-moi tranquille. Bon, je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille réaliser mon prochain film, c'est l'histoire de George Clooney qui se bat contre un chausson aux pommes, et il faut que je me dépêche d'aller changer d'axe, sinon je vais être battu par la lumière.
Merci à tout le monde d'avoir écouté.
Et Paul, on te retrouvera au Grand Rex les 14, 15, 16 et 17 mars 2023 pour ton spectacle Zèbre.
Oui.
Si vous doutez du déhanchement de Pierre Ninet et de son sens du rythme...
Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié, oui.
Ah ouais, non mais là, c'est... C'est une fête de famille et donc on se lâche pendant les fêtes de famille. Il y a beaucoup de musique présente dans ce film Goliath.
J'ai voulu planter un oranger là où la chanson.
Et on voit justement le passage d'une fête à l'autre et on voit la manière dont les agriculteurs se réunissent, les familles se réunissent et font des barbecues, des grands banquets d'un côté, de l'autre côté, il y a des voilà, de côté il y a des fêtes, vraiment il y a ce parallèle là, y compris parallèle entre les flammes on va dire, alors sans spoiler encore une fois, mais il y a quelques...
Il est dans la merde, là.
Mais il y a un passage, si, entre des flammes de revendications et de désespoir d'un côté et les bougies d'un anniversaire, d'un gâteau d'anniversaire de l'autre. On passe vraiment de l'un à l'autre et d'un feu de joie à un feu de désespoir. Donc toutes ces intentions dans la réalisation, dans le montage, dans le rapprochement des plans et dans le jeu des lumières est extrêmement... L'écriture de Frédéric Tellier, en tout cas, est à souligner et à féliciter. La musique dans la vie d'Emmanuel Berco et de Pierre Ninet. Avant d'accueillir Nadine Lauverja, qui est déléguée générale des Générations Futures, association qui lutte contre les pesticides et les produits chimiques. On va parler avec Nadine Lauverja dans quelques instants. Mais d'abord, la musique avec vous, Emmanuel Berco. Vous écoutiez Aznavour en 2000.
You are the one For me, formidable.
Alors, il n'y a pas de date ou d'année pour écouter Aznavour, mais pourquoi celle-là correspond à 2000?
Vous nous demandez des souvenirs qui sont extrêmement lointains. Moi, 2000, je sais que je venais d'avoir mon fils et je sais que je lui mettais cette musique, mais à un niveau de volume totalement irresponsable.
C'est génial.
Ouais, j'ai ce souvenir.
You are formidable ouais. pour son enfant.
Non, mais je trouve que c'est la joie, cette chanson.
Et dans cette période-là, Emmanuel, c'est votre premier film que vous réalisez.
Oui.
Clément, dans lequel vous jouez aussi. Par obligation?
Oui, enfin, ce serait trop compliqué à expliquer là, mais oui, finalement, par obligation,
mais avec plaisir.
Oui, avec plaisir.
Ouais, avec plaisir. Clément, c'est l'histoire d'une trentenaire qui tombe amoureuse d'un garçon de 13 ans. Il faut préciser qu'avant ce premier long métrage, vous aviez fait un moyen métrage, La Puce, où cette fois-ci...
Vous tombez amoureuse d'un enfant de 12 ans.
C'était une jeune fille qui découvrait le sexe avec un homme âgé d'une trentaine d'années, je crois. Il y avait l'écart était, pour le coup, voilà, c'était inversé en fait dans la situation. Est-ce que c'est un film qui a suscité beaucoup de débats?
Lequel?
Bah, les deux finalement.
La Puce, je sais
que je me suis fait agresser par des spectateurs après des projections pour les deux films.
Ah bon ?
Évidemment, on est toujours plus révolté par l'histoire où l'homme est plus âgé que la fille. Il y a eu assez peu de films dans le sens inverse. Clément, c'est vraiment moi je pense que c'est des films qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Que j'ai fait très librement.
Pardon, mais qu'on pourrait plus faire aujourd'hui parce que c'est maintenant acquis qu'il puisse y avoir une différence d'âge.
Non, parce que y a un retour à l'ordre moral. Moi, évidemment, il n'était pas question de pédophilie dans mes films à aucun endroit.
Justement, il y a deux débats. Il y a celui de la différence d'âge, la femme plus âgée que l'homme, et le fait d'être amoureuse d'un enfant.
Oui, enfin d'un adolescent, je préfère qu'on dise quand même un adolescent. Ouais, mais écoutez, ça peut arriver. Moi, j'avais envie de raconter que ça peut arriver. Après, ça pose évidemment plein de problèmes qui sont incarnés dans le film.
Et pourquoi justement c'est ce sujet-là à deux reprises? Parce qu'on pourrait se dire, moyen long métrage, bon ok, long métrage, encore ce sujet, qu'est-ce que ça dit de vous?
Ça, je veux pas le savoir.
Et puis il y avait eu un été 42 aussi, qui était un film qui avait ce sujet-là aussi.
Oui, mais je ne sais pas d'où ça vient, j'ai pas fait de psychanalyse.
En tout cas,
c'est ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui.
Et en 2010, il y a eu la prison quand même. C'est pas innocent, hein, tout ça.
Pierre vous écoutiez en 2000.
La force masse, porte dans les châteaux, où flotte l'étendard, notre drapeau soit sûr. Que sous le feu, la vérité est masquée.
Viens, bascule
de notre côté obscur. La force est noire.
Ayam, dans là, ce qui vous parle, c'est le tempo, le texte, ce que eux dégageaient dans leur mise en scène finalement, et de ce côté pyramidal égyptien de Khéops à Khénaton et des légendes.
J'ai des origines égyptiennes.
C'est ça, il serait temps de le dire.
C'est vrai. ma grand-mère est égyptienne. Et...
C'est
ça, ouais. Non, je te jure.
Mais ça se sent dans son visage.
Il me croit pas.
Mais
oui,
c'est moi qui ai des origines égyptiennes.
Mais je sais bien, mais c'est pour ça que t'as pas le monopole de la pyramide, hein.
Tu vas te calmer, ok. Donc chacun son créneau, ok.
Bon, écoute, va mutiler des chevaux et on s'en repart.
C'est reparti.
Bon.
Ça a mis du temps. 11h45, ça a mis du temps pour
ça. Ça couvait. Bon, c'est bien, c'est dit. Il faut que les gens sachent la vérité.
C'était vrai, non?
Non, mais en vrai, par contre, ma grand-mère est du Caire, elle est égyptienne.
Et elle élève des chevaux.
Non, elle élève pas des chevaux.
Elle mange des chevaux.
Mais on adore les animaux, contrairement à la famille de Nagui. Et en fait. Non, c'était plutôt. J'adore. En fait, c'est ma grande sœur qui m'avait donné cet album. Et c'est un peu le premier album que j'ai écouté en boucle à connaître toutes les chansons de l'école du micro d'argent, Ayam. Et donc, ça a été mon initiation au rap avec Ayam. Et j'adore encore cet album. Je trouve qu'il a pas vieilli et qu'il est incroyable. Voilà.
Et à cette époque-là, on pourrait dire, Pierre Niney, que le football a perdu une passoire. C'est comme ça, je crois, qu'on vous surnommait à l'école. Ouais, c'est ça.
Tout à fait, ouais. J'étais. Enfin, même pas à l'école. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que je pouvais jouer en club au foot. Et du coup, je m'étais inscrit. Et très rapidement, tout le club m'appelait la passoire. Alors, je voulais être gardien, j'avais acheté les gants, j'avais acheté tout le truc du gardien de but en étant persuadé que c'était génial. Et j'aimais bien ce rôle du gardien de but. Je trouvais ça hyper dramatique comme rôle, d'être le dernier bastion à pouvoir arrêter
rempart,
là-bas.
Ouais,
le dernier rempart.
C'est beau,
ouais,
mais très très beau.
Absolument
l'idée
pas
n'était
rempart,
pas
mais...
du tout, voilà. Hein,
de l'humilier un peu quand
pas
même.
Pas du tout, pas du tout, parce que le théâtre, pour le coup, a eu la joie de vous rencontrer. C'est une rencontre
pareil,
qui
on
a eu lieu.
La passoire aussi au théâtre.
Ça, j'ai jamais compris pourquoi.
Et ça, c'est.
Les trous de texte, peut-être.
C'est intervenu.
Une cata.
C'est intervenu
au collège.
C'est intervenu au collège via un atelier de théâtre.
Oui.
En fait.
Ça y est, on a perdu Emmanuel.
Comment c'était qui le prof? Comment ça s'est passé?
Ça vous regarde pas. Je suis pas venu ici pour me faire questionner.
Vous aviez quel âge? Elle avait quel âge?
C'est quoi? C'est la Gestapo? Le prof, bah,
merci Pierre-Louis,
voilà, bonne soirée.
Merci, à bientôt. Nous allons enfin avoir quelqu'un d'intéressant.
Vous avez vraiment coupé,
il le fait vraiment. Moi, c'est la dernière fois que je viens. Hein.
Nadine,
enfin
une bonne nouvelle. Nadine Lauverja, merci de venir à ce micro. Nadine,
c'est du courage.
Vous êtes déléguée générale de Génération Future. Quel est le principe de votre association? Quel est son but?
L'objectif, c'est d'informer sur les effets des pesticides, alors des polluants en général, mais des pesticides en particulier, pour la santé et l'environnement, et de promouvoir bien sûr les alternatives, parce que ça suffit pas de dire que les produits sont dangereux, il faut pouvoir apporter des solutions. D'ailleurs, je vous ai apporté un petit livre qui, pour en finir avec les pesticides, qui donne un certain nombre de...
Parce qu'on peut en finir avec les pesticides.
On doit, de toute façon. Aujourd'hui, les impacts sur la santé sont évidents. C'est montré à la fois dans le film Goliath, qui est d'ailleurs super. Je félicite vraiment encore les acteurs qui ont incarné le film de manière incroyable. On doit parce que on sait qu'aujourd'hui, ces produits ont un impact sur la santé. Les agriculteurs sont malades de ces produits-là. Des maladies sont reconnues en maladies professionnelles pour cette exposition aux pesticides. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, ça a des impacts sur la biodiversité de manière importante. Et bien sûr, on peut. Il y a des agriculteurs qui le font. Hein. En France, aujourd'hui, on a à peu près 7% de la surface agricole qui est en agriculture biologique. Donc ça veut dire qu'il y a des agriculteurs qui savent faire sans les pesticides de synthèse. Et l'Union européenne aujourd'hui a adopté une stratégie qui s'appelle de la ferme à la fourchette, qui dit que voilà, il faut de toute façon aller vers un changement des pratiques et en finir avec les pesticides.
Mais quand on voit dans le film qu'il y a justement tellement d'intérêts en jeu, et que le pouvoir de l'argent mondial, parce que ce sont des sociétés aussi qui ont un pouvoir sur la planète entière, et arrivent à coup de, pour eux, de quelques centaines de milliers d'euros, ce qui ne représente rien, c'est des faux frais, qui arrivent à acheter le silence, soit de chercheurs, soit d'agriculteurs qui pourraient porter plainte, mais en tout cas de faire taire les procédures contre eux.
Ouais, alors je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, s'ils y arrivent parfois, alors dans le film, c'est vrai qu'il y a cet aspect où on sent que la famille bascule et voilà, elle se lasse.
C'est le cas dans la vraie vie.
Ça peut arriver, enfin, ça pourrait arriver, mais en réalité, les victimes des pesticides, les organisations ou les politiques qui sont vraiment convaincues des effets néfastes de ces substances-là, se laissent pas influencer. Elles ont l'envie de faire avancer les choses, et donc elles vont dans des procédures qui sont en effet très longues, très coûteuses, très difficiles, mais elles vont jusqu'au bout. Je pense quelqu'un comme Paul François, dont on a beaucoup parlé, qui est un agriculteur, voilà, Monsanto, qui a été intoxiqué par un produit de Monsanto. Il a pas lâché l'affaire, quoi. Il est allé jusqu'au bout.
Et d'autres. Parlons du glyphosate. Le président de la République avait annoncé l'arrêt du glyphosate en très peu de temps, et finalement, c'est impossible.
C'est repoussé à chaque fois.
Alors, il faut savoir aussi qu'avec
du glyphosate, c'est pas.
C'est compliqué, pour un herbicide. Et ceci dit, voilà, c'est une substance, en effet, qui est la plus utilisée au monde. Donc il y a une pression gigantesque et du monde agricole et des lobbies pour pouvoir maintenir sur le marché cette substance qu'ils considèrent d'ailleurs comme non dangereuse, alors qu'elle est quand même reconnue comme étant cancérogène. Après, il est possible quand même de se dire que cette pression, elle existe, mais on peut la faire basculer. Au départ, l'autorisation du glyphosate, elle était prévue pour 15 ans. On a obtenu avec les associations que ce soit finalement que pour 5 ans. Et donc il y a tout un débat qui se met en place avec des expertises qui montrent que ce produit, l'évaluation, elle n'est pas bien faite. Il y a des études qui sont écartées pour de mauvaises raison. Donc on arrive quand même à maintenir cette pression et faire en sorte que des politiques finalement se positionnent comme Emmanuel Macron, même si on n'est pas allé au bout, pour dire il faut en sortir. Et donc il y a finalement la recherche qui se met en place avec, on l'espère à terme, une sortie définitive.
Donc vous avez quand même bon espoir pour que le glyphosate soit
Il faut en avoir, parce que sinon c'est dramatique.
Déjà, moi je tiens à saluer le travail de votre association Génération. Merci. Qui est exceptionnelle.
Et Génération Future, parce que
Génération Future. Moi, je dis Génération, parce que je suis vraiment, je les connais bien. Non, mais Génération Future. Non, je blague. Je dis ce que je veux d'ailleurs, Nagui, dans le premier temps. Non. Mais sincèrement, ils font un travail remarquable. Ce qui est assez, et c'est une question, ce qui est assez flippant. Moi, la lobbyiste avec qui j'ai pu finalement parler, qui a accepté de me parler parce qu'elle a arrêté de travailler sur le glyphosate, mais qui a travaillé pendant des années à défendre les intérêts du glyphosate. Elle me confiait, en fait, pendant qu'on parlait, je lui disais, ah là, le glyphosate, on a eu la parole présidentielle, mais Macron l'a pas mis dans la loi, il a juste donné sa parole présidentielle, qui était un truc quand même très bancal, hein, comme espèce de manœuvre. Et je lui disais, vous devez, ils doivent avoir un petit peu peur quand même que le glyphosate soit interdit dans 3 ans. C'était à l'époque. Et elle me dit, ah non, pas du tout. Non, le glyphosate, c'est bonus, là, toutes les années en plus. Ils prennent, mais ils ont déjà des molécules prêtes à mettre sur le marché après le glyphosate.
Sous un autre nom, quoi.
Avec une petite différence de composition chimique. Mais c'est l'équivalent. Et on repart pour 5, 10, 15 ans, combien?
Ouais, ça, c'est très juste. Alors, ce système aussi de dérogation permanente, ils crantent, en fait. Eux, ils gagnent du temps, ils gagnent de l'argent. Et ça, c'est exact. Et souvent, d'ailleurs, les lobbyistes là-dessus sont très cyniques. Eux, ils font, ce qu'il faut pour que ça continue et que ça perdure. L'essentiel aujourd'hui, c'est de changer le système en profondeur et ne plus laisser en fait le monde agricole dans cette dépendance en fait à ces produits de synthèse. Donc ça veut dire refaire de l'agronomie, remettre vraiment des systèmes avec des variétés résistantes aux maladies, tout repenser le système dans sa globalité. On voit bien aujourd'hui que les politiques mises en œuvre pour notamment réduire l'utilisation des pesticides ont échoué. Ça veut dire qu'on n'a pas donné les moyens au monde agricole et à l'ensemble de la filière pour faire évoluer vraiment le système. Alors que ces solutions, elles existent, que y a des organismes qui disent que c'est l'agroécologie, c'est l'agriculture biologique qui va nourrir le monde, qui va nourrir l'Europe. Donc,
est-ce que votre combat se situe aussi sur les produits de la vie quotidienne? Tout à l'heure, je parlais de cette histoire de pain de mie qui avait été
une fixation là-dessus.
Mais non, parce que c'est récent. Il y a 2-3 jours où c'est sorti, où dans beaucoup de supermarchés des pains de mie avaient clairement des produits cancérigènes. Je pense aux protections féminines aussi, où clairement dans les tampons, dans les serviettes, il y a des produits qui sont néfastes pour la santé des femmes. Votre combat va jusque-là aussi à chercher à déceler tout ce qui peut nuire à la santé.
Nous, on est vraiment. On se focalise sur les substances chimiques en général. D'accord. On a une spécialité dans les pesticides depuis des années. Mais il y en a beaucoup. Ouais. Alors après, on va cibler vraiment ceux qui posent le plus de problèmes sur les problèmes de perturbations endocriniennes, par exemple, les cancérigènes, c'est les mutagènes, les reprotoxiques. Il y en a énormément. Heureusement, on a une réglementation quand même au niveau européen qui s'appelle REACH pour la substance générale. Et puis pour les pesticides, il y a un paquet qui est un peu encadre en fait l'utilisation et la mise sur le marché de ces produits-là. Mais c'est vrai, c'est un énorme travail. C'est 100 000 substances aujourd'hui qui sont mises sur le marché, donc on est obligé de cibler les substances qui en gros sont le plus en contact avec les populations les plus vulnérables, les femmes enceintes, les jeunes enfants, etc., et qui se retrouvent dans les produits du quotidien et notamment l'alimentation. L'alimentation, c'est notre première source d'exposition, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler pour limiter son exposition aux produits pesticides notamment. Bah, il vaut mieux manger bio, on le sait. Il y a pas quasiment de résidus.
Tout faire pour que le bio soit abordable et ne soit pas un produit de luxe, c'est que
c'est possible. Il faut manger différemment, manger moins de viande, par exemple.
C'est important de le dire, effectivement, il y a des études complètement indépendantes depuis 2017 qui expliquent qu'on peut effectivement nourrir le monde avec une agriculture sans produits chimiques, que c'est complètement viable, il faut juste manger moins de viande et puis gâcher moins, c'est tout. Mais en fait, il faut mettre en place ce système. Alors ça paraît simple et évidemment, en fait, c'est un travail de refonte de notre société et de comment on voit le monde agricole. Mais c'est possible parce que il y a beaucoup de gens, quand on leur en parle, je disais tout à l'heure qu'on répète tous des trucs que des lobbyistes ont dit. Moi, après des avant-premières, là, les gens nous disaient « Ouais, mais au fond, le bio, c'est que pour les riches. » Oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est pas aidé par l'État, en fait, du tout. Donc c'est sûr que c'est trop cher, c'est pas abordable pour plein de gens. Oui, et puis en plus, quand un champ est pesticidé à côté d'un champ bio, enfin, que des trucs pour freiner, en fait. Ouais, et tu comprends qu'en fait, c'est des arguments très bien construits par des lobbyistes.
En préparant cette émission, j'ai découvert qu'il y avait des produits, des pesticides qui étaient fabriqués en France, interdits en France, mais qui étaient utilisés sur une agriculture étrangère, mais qu'on importait ensuite le maïs ou le blé de ces pays en avalant les pesticides qui étaient interdits en France.
On a un peu gagné là-dessus, justement, le fait que cette pratique-là, normalement, elle doit être interdite. On doit plus normalement produire en France et exporter à l'étranger des produits qui ne seront plus utilisés chez nous. Mais il y a encore du boulot.
Génération Future, votre site internet pour...
Génération-future.fr.
Merci beaucoup. Merci Nadine d'être venue à ce micro. Nadine Lauverja. Dans quelques instants, nous allons parler avec Tanguy Pastureau de ce qui va se passer dans l'autre demi-heure. Mais d'abord, le héros du jour, c'est maintenant. Et c'est Daniel Morin.
Mes chers amis, mon héros du jour aurait dû être notre invité, Pierre Ninet, qu'apparemment je suis le seul à apprécier ici. Oui, absolument, dans le film Goliath, Pierre Ninet incarne un soi-disant méchant. Et quel genre de méchant? Eh bien, tout simplement, un homme qui ne se laisse pas enfumer par cette mode insupportable qu'est le retour à la nature. La tendance bobo bio gaucho du tout naturel, circuit court, manger, bouger, mon cul sur la commode. Non, le méchant incarné par Pierre Ninet est tout simplement un homme qui sait vivre avec son temps. Un homme qui a compris que sans le petit coup de pouce chimique qu'on appelle glyphosate ou tétrazine, eh ben l'agroalimentaire, c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est des pépins dans les mandarines, des pucerons dans les tomates, de la terre sur les pommes de terre. Et ça, on n'en veut plus, on n'en veut plus. La chimie au service de notre terre, c'est un sol accueillant pour notre agriculture, pour des productions régulières et rassurantes. Alors vous me direz, et l'impact sur l'environnement ? Eh bien oui, il y en a un. Oui, c'est vrai, il y en a un, mais c'est le prix à payer pour avoir un peu d'ordre dans ses rangs de poireaux et ses pieds de vigne. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux. Mais croyez-moi, votre envie, messieurs, d'un retour à la préhistoire n'est pas sans risque non plus. Il invite à l'anarchie alimentaire à base de légumes et de fruits mal calibrés qui ne rentrent pas dans les caisses prévues par Bruxelles. Eh oui, on n'a pas tous envie du concept de la ferme la fourchette de Madame Nadine de Génération Future, non ? Bravo pour le choix de ce rôle, Pierre Ninet. J'espère que votre rédacteur populaire redorera un peu le blason de nos lobbyistes qui, j'ai pas peur de le dire, sont plutôt mal vus sur cette antenne de vilains gauchos haineux qu'est France Inter. Mais malheureusement, Pierre Ninet n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros du jour, cette journée internationale des droits des femmes, c'est bien sûr Arnold Schwarzenegger.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Oui, ce bon Arnold, qui cette année a rajouté du fun, du piquant dans son show, le Arnold Classic. Oui, à la base, le Arnold Classic est une compète de muscu, de bodybuilding, mais depuis cette année, il a aussi incorporé le grand concours de baf. Le principe est simple, deux adversaires face à face, chacun leur tour se mettent des mandales dans la gueule. C'est simple, c'est brillant, c'est couillu, c'est Arnold. Et là encore, croyez-moi, si les produits issus de la chimie n'existaient pas, eh ben les amis d'Arnold et lui-même, ils n'auraient pas des bras aussi balèzes et les baffes seraient moins fracassantes, donc moins intéressantes. Le concours de baffes, c'est un sport qui nous vient de Russie, le pays de la baffe. Et je pense que pour toutes les valeurs de partage, de transmission et d'engagement qu'il représente, il a toute sa place comme nouvelle discipline olympique. Voilà donc pourquoi Arnold Schwarzenegger et tous ses stéroïdes. Voilà mon héros du jour, suivi de très près, il est vrai, par Pierre Ninet et sa tétrazine.
Ah, ils ont le même physique, oui. Merci. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
De quoi parles-tu aujourd'hui ?
Je vais vous parler des pénuries de gaz, d'essence, ça devient compliqué. Je sais pas si vous avez une mule ou un lama pour vous déplacer, mais il va falloir les sortir de l'écurie, Nagui.
Parle pas de cheval, Nagui.
Je sais.
Et Emmanuel Berco et Pierre Ninet. Avec Goliath, ce film que vous interprétez tous les deux aux côtés de Gilles Lelouch, Laurent Stocker, Yannick Régnier, entre autres, parce que il y a également Marie Gillin, que je n'ai pas citée.
Journaliste de l'AFP, qui file pas mal d'infos à Gilles Lelouch.
Et qui file des infos et qui reçoit aussi trois assez violentes.
Oui, direct, ouais.
Il y a Chloé Stéphanie également, Jacques Perrin. Je parlais de lui tout à l'heure et c'est aussi sur ce drame vécu parce que on se rend compte dans le film que en effet rien n'est manichéen, rien n'est simple. C'est pas le camp des gentils contre le camp des méchants. Tout est mélangé et c'est la part humaine qui est importante. Et Jacques Perrin est vraiment humainement déchiré. Emmanuel Berco dans le film.
Demandez à Pierre Ninet plutôt.
Elle va répondre à cette question.
Vous n'avez pas vu le film alors ?
Si, mais je l'ai vu qu'une fois, je vous avoue, il faut que je le revoie.
Non, mais
je peux pas parler gentil. Précisément.
C'est gentil de le dire.
Ouais,
alors, j'ai précisé ma pensée.
C'est dur de voir un film qu'une fois quand on l'a fait. Je le revois ce soir.
Enfin, en même temps, nous aussi, on l'a vu qu'une fois. Mais
c'était amplement suffisant, quand même.
Mais moi je voulais évoquer les scientifiques, les chercheurs qui d'ailleurs dans leur travail aussi bien alimentent les recherches et les laboratoires des chimistes et des industries qui fabriquent ces pesticides que de faire des analyses en disant oui c'est cancérigène, non ça ne l'est pas et sont utilisés, manipulés par les lobbies.
Bah, totalement, il y a même en fait moi en commençant à me renseigner là-dessus j'ai compris qu'il y avait des laboratoires qui tournaient à l'année pour ne rien trouver. C'est improbable, mais en fait, c'est des vrais scientifiques, très bien financés par l'agrochimie, pour, par exemple, ne jamais trouver de corrélation entre tel produit et les quatre cancers.
Donc, servir des rapports sur mesure.
Servir des rapports sur mesure, télécommander, payer, et faire pour pouvoir avoir plein d'études. D'ailleurs, moi, très souvent dans le film, je dis, il y a 1000 études qui prouvent que ce truc n'est pas cancérogène. Et en fait, c'est des vrais scientifiques depuis le tabac. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est pratiqué dans ce sens-là. C'est de ne jamais trouver de corrélation, de ne rien trouver. Donc c'est des scientifiques payés pour ne rien trouver.
C'est pour pouvoir dire preuve à l'appui, rien n'a été prouvé.
Exactement. Voilà,
ouais, non mais la plus belle étude ou les plus belles études en tout cas scientifiques de chercheurs et la meilleure preuve de lobbying date des années je crois 50 aux États-Unis où c'était le lobby du sucre qui a fait passer la graisse et le gras comme étant la pire des choses pour le corps et pour rendre faire paraître le surpoids et ainsi de suite. Ils ont payé des millions pour que le sucre soit adoubé comme étant quelque chose de formidable et que la graisse soit quelque chose de scandaleux et de rejeté. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec du sucre maintenant partout, dans tous les produits, dans le moindre biscuit,
même
ou fromage fabriqué, c'est ça.
Industriellement fabriqué,
il y a un taux de sucre
qui est super
infernal.
Bon.
Pardon ?
En même temps, c'est super.
Oui, c'est ça.
Le sucre.
Et dans ce même documentaire, j'imagine, on parle du même qu'on avait vu sur Netflix.
Oui, c'est ça.
Il est question des produits laitiers, du lien, par
exactement.
Exemple, des produits laitiers avec le cancer du sein.
Ah. Et tout ça était s'appuyer, s'étayer sur des études de scientifiques qui disaient non, il n'y a aucun problème, Mais c'est vrai
dans
que c'est la limite, en tout cas, mais ces mêmes scientifiques aussi peuvent, de l'autre côté, dénoncer. C'est ce que l'on voit très bien dans le film d'Angoliath, puisqu'il y a une phrase que vous dites à plusieurs fois, et qui est même reprise sur un ministre, sur un plateau d'un JT, qui est de dire ils sont bien moins dangereux que les bonbons que l'on donne à nos enfants et qui eux sont autorisés.
Tout à fait.
Parce que les
c'est pas faux.
Encore une fois, c'est une idée bien virale, simple, qui peut se diffuser largement. C'est vraiment quand le job est bien fait.
Et ce qui est impressionnant, c'est d'entendre les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes tournures. D'ailleurs, c'est Jacques Perrin, le chercheur, qui le dit dans le film. Ce sont exactement les mêmes tournures de phrases, les mêmes mots utilisés. Par l'industrie chimiste, par les lobbies, par les hommes politiques et par ceux qui sont au Parlement européen et qui décident ou pas de la prolongation des autorisations de ces pesticides. Et puis alors, ces séances qui sont reportées pour des pauses pipi, pour qu'il y ait le moins possible de parlementaires pour le vote et être le plus tard possible. C'est fou.
C'est une réalité, ouais, c'est une réalité, bien sûr.
C'est la même chose en France, à l'Assemblée nationale.
Ouais, complètement.
C'est vrai qu'il y a des votes qui passent avec 20 personnes.
Ouais, ouais, bien sûr, combien de fois on s'est dit, mais c'est super important, pourquoi il n'y a personne à ce moment-là? Pourquoi? Bah, évidemment, c'est.
Deux heures du matin.
Ça n'est pas que ça, hein. Il y a évidemment plein d'hommes politiques qui font très bien leur job et il y a des lobbies aussi pour des causes plus nobles que les pesticides ou le tabac ou quoi, ou le diesel. Mais c'est vrai que ce qu'on montre dans le film, tout est documenté, tout est vrai.
tout est vrai et ça reste une œuvre d'art entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, ça reste une fiction avec cette très belle lumière, cette belle réalisation et cette pléiade d'acteurs de qualité.
Merci.
Et Pierre Ninet.
C'est minable. Si vous voulez partir, vous pouvez y aller, Pierre, je comprendrais. Hein,
et ça, avec des impôts.
Voici Tanguy, ça va, voici Tanguy Pascal.
Hier, j'ai écouté une interview de Bruno Le Maire parce que je me suis dit, on ne sait pas, demain ce sera peut-être l'apocalypse nucléaire. Je ne veux pas mourir sans avoir connu certaines expériences comme le triolisme, la richesse ou l'ennui abyssal. Et bon, le triolisme à mon âge, c'est fini. Hein, même tout seul, je suis capable de me faire un claquage. En plus, après l'amour, il faut parler. Or, à deux, c'est une discussion. À trois, c'est un débriefing. Hein, on arrête de parler de conversation sur l'oreiller à partir du moment où il y a plus de gens que d'oreillers. Personne n'est jamais ressorti d'un tournage de vidéo Jackie et Michel en disant, j'ai découvert en Sylvie une belle personne. Non. On dit c'était chouette, mais c'est vrai que sur le plan du débat d'idées, c'est limité. Hein, la richesse, bon, j'ai beau en parler chaque année à des directions d'Inter, ils sont atteints d'un déficit auditif rare, ils entendent bénévolat. Et il me reste l'ennui abyssal. D'où ma passion pour Bruno Le Maire. L'être le moins foufou au monde avec l'huître. Mais parfois, au moins, l'huître a une perle. Hein, vous pensez que Le Maire, il se mettrait un petit collier de perles? Non, il est là à parader en cravate, ce cisgenre blanc. Et il est ennuyeux! Même à Vegas sous cocaïne, je pense qu'on le retrouverait en train de repasser des napperons. Very bad trip avec Bruno Le Maire, ce serait histoire de deux types défoncés qui cherchent Bruno Le Maire à Pattaya et réalisent qu'il a passé la nuit dans sa chambre d'hôtel à dormir. Si Bruno Le Maire avait été dans le groupe AC/DC, il n'aurait pas chanté Highway to Hell, mais le petit sentier tout con qui mène à la Nièvre. Bruno Le Maire, quand il a une insomnie, regarde sur son iPhone des photos de Bruno Le Maire, il s'endort. Mais bon, hier c'était spécial, il était sur BFM face à Apolline de Malherbe, vous savez, qui a remplacé Jean-Jacques Bourdin. Elle-même sera remplacée si on apprend qu'elle a passé une main à Alain Duhamel. Je veux dire, elle est humaine. Hein. L'autre se balade comme ça en pantalon à pince, remonter jusqu'au nombril, ça lui fait un petit cul à la Kylie Jenner. À un moment, elle a envie de tripoter, quoi. Je sais que c'est jamais la faute de la victime, mais là, quand même, qu'il arrête de provoquer le désir. Et donc, Bruno Le Maire, hier, a dit que les Français devraient faire un effort sur leur consommation d'énergie. Parce qu'à cause de la guerre en Ukraine, qu'on suit en live sur toutes les chaînes, parce que ce sont des blancs, donc on se projette. Hein. Alors, avec le Yémen, on n'avait pas réussi, parce que... Hein. Bon, à cause de la guerre, donc, les prix explosent. Et autant nous, à Paris, ce qui nous préoccupe, c'est le tarif de la rustine pour les pneus de vélo, autant quand vous habitez à 15 km de Fécamp, vous avez besoin d'une voiture. Sinon, comment voulez-vous fuir Fécamp pour aller voir si la légende est vraie? Cet astre, le soleil, dont Evelyne Delia parle parfois. Et là, le gazoil prend 14 centimes par jour. C'est tellement cher que dans les stations, la serviette de bain Total, on vous la donne au bout d'un plein. Vous en faites 10, on vous donne la station. 1,90 euros le litre de gazoil, 2 euros le 98. Mais moi, j'ai mis 3 cadenas à la trappe de mon réservoir. J'ai accroché un montage photo effrayant pour repousser les voleurs. La tête de Jean-Yves Le Drian avec comme moustache les courbes de sondage d'Anne Hidalgo. Hein, ces choses longues qui pendent. C'est la seule dame à avoir la même dynamique qu'un octogénaire sans Viagra. Michel-Édouard Leclerc a annoncé pour cette semaine une hausse de 10 centimes supplémentaires. Et quand Michel-Édouard Leclerc, le monsieur qui fait les 12 slips à 4 euros et qui offre quasiment sa baguette au premier venu, enfin sa femme est au courant, n'arrive pas à jouer sur les prix, c'est que la situation est grave. On s'est tous foutus de la tête des mormons avec leur carriole, mais on va finir par se déplacer à cheval. Devant la maison de la radio, il y aura un abreuvoir. Nagui, vous aurez ce qui se fait de mieux, un pur sang anglais. Hein, vous direz à un poney qui est garé sur votre place, casse-toi sale bête. Le poney répondra, ouais, bah ça va, c'est moi, c'est Daniel. Bon, en ce moment, je suis entre deux groupies, j'oublie toujours ma trousse de toilette chez moi. Bon. Et le gaz, c'est pire, on va vers la pénurie. Moi, j'ai un ami désespéré qui en a déjà plus, ça fait 8 jours qu'il attend en vain, avec la tête dans le four. Hein, chaque jour, les pays occidentaux achètent à la Russie pour 700 millions de dollars de gaz, pétrole, charbon. Vous vous fâchez avec le Bangladesh. Au pire, il y a une pénurie de t-shirts charmantes françaises. Hein, et les femmes retrouvent leur dignité. Mais se passer de la boutique de Monsieur Vladimir, c'est compliqué. Bientôt, on pourra plus rien cuire. Quoi, un gâteau d'anniversaire, ce sera deux œufs mélangés à de la farine dans un saladier avec les bougies qui coulent, quoi. Au moins, quand c'est mamie qui fête son anniversaire, on pourra dire on a voulu faire un gâteau qui te ressemble. Bref, il faut économiser l'énergie. Je propose d'ailleurs de faire cette émission sans lumière. Voilà. Avantage, dans le noir, il suffira de prendre Yves Lecoq tous les jours. Hein, tout le monde y verra avec du feu. Il fera, écoutez, les gens se diront, tiens, je pensais que Chirac était mort. Bon. Nagui vous dirait bonjour, Mélanie Thierry, ça va? Lecoq répondra non, mais je crois qu'en fait la question ne se pose pas en ces termes-là, bon, en pleurant. Hein. Vous direz bonjour Gérard Depardieu, Lecoq ferait allez quoi Poutine, fais pas le con, j'ai pas bouffé du carpaccio toute ma vie. Enfin bon, ce sera formidable quoi. Oui, tout ça pour vous dire qu'on va finir en slip de peau dans des huttes avec Zaz qui nous dira eh ben alors, qui c'est qui avait raison? Hein, vous savez que l'odeur de l'essence, la chanson d'Orelsan est passée de 2 à 34 euros en téléchargement. C'est plus possible quoi. C'est plus possible.
Merci.
Et Tanguy, on se retrouve le 26 mars sur scène à Strasbourg.
Oui.
Goliath, un film engagé, un film politique, un film vérité qui sort demain au cinéma. Emmanuel Berco, Pierre Ninet, c'est le rôle des artistes, c'est le rôle des arts de faire bouger les idées, de faire réfléchir.
Merci.
Non, c'est une grande question. C'est une grande question.
Pas seulement.
Non, pas uniquement. Ouais, je crois. Là, le film, moi, ça avait été un film purement militant. Évidemment, je pense que ça aurait pas été intéressant, même si on n'est pas intéressé par les pesticides ou les vies qui peuvent se jouer autour de ça. Je pense que le film est intéressant. C'est un film d'enquête. C'est monté de plus en plus au fur et à mesure du film, effectivement, comme un thriller.
Ouais.
Donc, moi, je pense qu'il faut toujours qu'il y ait une dose de divertissement au sens noble hein, du terme. Et après, si ça peut porter des messages, pointer peut-être des injustices dont on est témoin et tout ça, je crois que l'art peut évidemment faire beaucoup. Ouais, avec un film, ça peut être très fort.
On a en tête des films comme Z de Kosta Garas, qui était, enfin moi ça m'avait vraiment marqué en disant le cinéma sert à ça, sert aussi à dénoncer, à dire des choses, tout en gardant un côté en effet spectaculaire, même si le mot est pas forcément bien choisi par rapport à l'horreur dénoncée. Midnight Express aussi font partie comme ça de ces films où on ne sort pas indemne. Et j'ai l'impression que dans vos choix aussi de films, il peut y avoir des divertissements, mais de temps en temps, vous allez là où la cause peut vous correspondre, même si vous ne jouez pas forcément le personnage qui correspond à vos idées personnelles, mais en tout cas, le message global, oui, vous, oui, Pierre, mais...
Oui, là, il se trouve que ça tombait bien.
Mais vous l'avez demandé, d'ailleurs,
oui. C'est
ça. C'est moche. Mais quand je vois, par exemple, que vous allez continuer de tourner avec Frédéric Tellier les 11 vies de l'abbé Pierre, Emmanuel Berco, je me dis que ce ne sont pas des choix naïfs, au-delà du plaisir de travailler avec Frédéric Tellier.
Oui, c'est avant tout le plaisir de retravailler avec Frédéric Tellier. On a envie de faire des bons films, d'être dans des bons projets, qui portent un message ou pas, à vrai dire. Moi, je m'en fiche. C'est un supplément d'âme pour
mais pourtant,
nous,
quand vous écrivez,
quand ça porte un message.
Quand vous écrivez un film et que vous le réalisez, vous voulez qu'il ait du fond, et pas uniquement...
Oui.
Voilà.
Oui, mais je peux faire avec beaucoup de plaisir, on me l'a jamais proposé, mais je pourrais faire avec beaucoup de plaisir une comédie qui est purement... Comment dire, purement destiné à faire rire les gens, c'est très noble aussi. Enfin, rire, ça. C'est,
comme on dit, les comédies populaires, quoi. Simplement, la vanne pour la vanne.
C'est de. Enfin, c'est, comment dire, ça rend service de rire. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de rire.
C'est un peu surcoté, moi, je trouve, mais.
Mais donc voilà, non, ça peut. Mais c'est vrai que quand on. En tout cas, quand on nous propose quelque chose où il y a un message qui milite pour quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un tout petit peu plus utile encore que d'habitude.
Nous avons Goliath, donc qui sort demain au cinéma. Quand vous dites utile, je pensais à la soirée que nous allons présenter Leïla et moi ce soir, où justement Julien Kerr chantera utile, justement en se disant est-ce qu'elle peut être utile pour désarmer ou en tout cas pour aider les réfugiés de tous les pays. En tout cas, l'idée de soutenir la Croix-Rouge française ce soir, Unis pour l'Ukraine, ça sera et sur France Inter et sur France 2 à 21h10. D'autres événements culturels à part le Goliath qui sort demain.
Si je vous dis Eya Aydara. Charlotte Détends Gainsbourg, Jacques Weber, on parle de quoi? Vous l'avez, vous pouvez le dire,
en
Emmanuel.
En thérapie saison 2.
Absolument.
Que vous réalisez alors, c'est ça?
J'ai réalisé...
Vous faites partie des réels.
7 épisodes, oui.
Ouais, avec Arnaud Desplechin.
7 ou celui-là?
Non, 7 épisodes.
7. Ah, attendez. Non, je suis d'accord.
De la ville, là?
6-1.
J'avoue que je suis un peu... Non, en vrai, t'en as réalisé un?
6-1.
On est cinq, il y a cinq personnages et il y a un réalisateur par personnage, sauf Toledano Nakash qui sont deux sur un personnage.
Il y a 35 nouveaux épisodes.
Ça a été tourné à 3. Et ça a été tourné à 3, je comprends pas.
Attends, ça sera en ligne sur le site d'Arte TV le 31 mars. En effet, il y a Arnaud Desplechin, il y a Emmanuel Finkiel, il y a Agnès Jaoui, Emmanuel Berco également qui réalise.
Et Toledano Nakash ne réalise pas ou ils en font quand même.
Si, mais ça c'est plus attendu. Okay. On va retrouver notre cher Philippe Dayan qui est de retour. Vous intéressez à quel personnage?
Moi, je m'intéresse à un PDG qui est en dépression.
Jacques Weber.
Qui est interprété par Jacques Weber, ouais. Ah.
Et ça a été tourné aussi en plan séquence, pratiquement, comme ça avait été le cas pour la première saison.
Non, c'est pas tourné en plan séquence, Nagui. C'est tourné en champ contre champ.
Oui, mais comme une pièce de théâtre, pardon. Alors oui, en chambre d'autre chambre,
si
mais
vous
en,
bah, dans la c'est continuité. C'est un dispositif, oui, c'est deux personnes dans une pièce qui se parlent, donc c'est vrai que la mise en scène est quand
pardon,
même...
Pardon, oui, c'est pas un plan séquence, mais oui, c'est oui. comme une pièce de théâtre.
Oui, ouais, tout à fait. D'accord. En tout cas, c'est pour des acteurs et pour le spectateur qui regarde des acteurs, c'est une expérience quand même unique, parce ouais. qu'on n'a jamais des plans si longs sur des acteurs sur une telle durée.
Ouais, c'est génial. Ouais.
C'est assez dingue. Enfin, je trouve que comme acteur, c'est une expérience folle.
Et en tant que réalisatrice, qu'est-ce qu'on peut apporter une fois qu'on a la forme qui est un peu imposée du champ contre champ?
C'est une très bonne question. Moi, je me suis bien demandé ce que je pouvais apporter, justement.
Bah, la direction d'acteur, c'est pas bah, que voilà, la technique.
C'est ce que Toledano Nakache m'ont dit. Oui, on fait appel à vous pour la direction d'acteur. J'ai dit, bon, bah, très bien.
Et okay. vous n'avez pas choisi votre personnage cette fois-ci.
Est-ce que vous avez choisi, cette fois, j'ai pris ce qui restait aussi. C'est bizarre, pourquoi, ah bah alors, pourquoi ça m'a...
J'ai pris ce qui restait.
Non, c'est vrai.
Daniel, t'as toutes tes chances.
Mais j'en serais flatté.
Et puis Jacques Weber l'a super bien pris.
Oui, c'est ça. Saison 2, événement. En tout cas, le 31 mars sur RT TV. Et le 7 avril, les 5 premiers de cette nouvelle saison seront transmis à la télévision. En gros, voilà, vous savez tout. Autre question.
Allez.
On va parler de la chanteuse Taylor Swift.
On est obligé.
Country music.
Eh bien, Taylor Swift.
Moi j'aime bien. Ouais.
Et la nouvelle héroïne de quoi? En
une
tout
série.
Cas, elle est la star
d'un
de...
dessin animé.
Non plus.
D'une pub.
Non, c'est plus étonnant.
Batman.
Non.
Plus étonnant.
Alors, si c'est étonnant,
elle va être au centre de toutes les discussions, de toutes les attentions.
Elle l'a monté.
Elle
est
sénatrice.
Non plus.
Oui, j'allais dire ça.
Barack Obama.
L'ONU l'a désignée
non.
comme diplomate.
Poutine.
Attends, tu peux redire, elle va être au.
Et
quoi?
Oh. Attends, il vaut mieux qu'elle le redise.
C'est louche.
On est fangeant.
Recharge batterie.
Il y a manqué, au centre d'un truc.
Elle va être
Égérie.
Non.
C'est une étude.
C'est scientifique. C'est scientifique.
Non, je l'ai dit avant.
Elle est quoi?
Elle on l'a pas vraiment dit en même temps.
On a pas
elle va être
dit.
Étudiée.
Elle va être étudiée à l'université de New York. Ça a déjà été le cas de Beyoncé, de Lady Gaga. Et en fait, on se dit, alors, de quoi on va parler autour de Taylor Swift? On va parler de la starification. On va parler aussi du business, de tout ce que ça peut engendrer, de l'image, des mécanismes aussi politiques qui sont à l'œuvre dans le milieu de la musique. Ça peut être un petit peu plus étoffé. Un cours qui sera tenu par une journaliste du magazine Rolling Stone. On est le 8 mars. On en parle peut-être un peu moins cette année, puisqu'on a la Journée
femmes.
Internationale des droits des femmes. S'il devait y avoir une femme à l'honneur pour vous, une femme que vous aimeriez étudier, dont le parcours susciterait votre curiosité, qui serait cette femme?
Chantal Goya, quand même.
Oui, il y a Chantal Goya.
C'est dur, comme question.
Ouais, seule, c'est dur. De quoi qu'on trouve intéressant, du coup.
Ou que vous aimeriez peut-être connaître davantage, si ça vous fait.
Simone de Beauvoir, moi je connais pas très bien. J'ai découvert en fait récemment qu'il y a plein de trucs que je connais pas du tout de sa vie.
Oui.
Je sais pas, Frida Kahlo.
Ouais. Et vous, Emmanuel? Une femme?
Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire.
Eh ben, le dites pas.
Enfin, je pourrais vous le dire, mais beaucoup plus tard, et je serai plus là. À 17h.
Demain, c'est la sortie de Goliath. Il y a aussi un autre film où vous êtes à l'affiche.
Ah bon?
Non, je croyais.
Oui.
Ma nuit.
Bien sûr, Ma nuit d'Antoinette Boula.
C'est demain, hein, que
ouais,
que
bien
sort le
sûr,
film également.
Le premier film d'Antoinette Boula.
Voilà, ça me semblait élégant de le.
Ouais, c'est super de votre part.
De le citer. Non, c'était pas pour avoir ce compliment.
Mais non, mais c'est vrai, c'est super.
Il y a également de grandes espérances, en plus de l'Abbé Pierre que vous tournez avec Tellier pour l'Abbé Pierre, mais de grandes espérances, c'est avec Sylvain Descloux. Le tournage est effectué ou va
oui,
être.
Oui, c'est fini.
Tout ça, c'est fait. Alors, quels sont les projets? Alors, vous allez faire quoi dans les mois qui viennent?
J'ai aucun projet.
L'écriture.
Je vais réfléchir à la question que vous m'avez posée. quelle femme je voudrais
mettre? Et à part ça.
Le 2 novembre prochain, Pierre Niney, vous serez à l'affiche de Mascarade, le nouveau long métrage de Nicolas Bedos avec Isabelle Adjani, François Cluzet. Vous y jouez quel personnage?
J'y joue Adrien, un jeune homme anciennement danseur, au passé un peu trouble et qui va rentrer dans un jeu. De séduction, d'arnaque, de crime, voilà.
Rien que ça. Très bien. Et puis vous avez un projet.
Encore
de...
un mec bien.
Alors
quoi.
Je ne sais pas si c'est un film, une série, ou, un film, une série ou une pièce de théâtre, une comédie musicale, c'est ça?
J'ai plusieurs projets un peu musicaux. Ça fait longtemps que j'aimerais bien faire ça sur Casting, qui était une petite série que je faisais sur Canal+.
Formidable, génial.
On a déjà touché un petit peu à la musique, on avait adoré ça. Donc il y a deux projets, il y a un projet de film en écriture et puis il y a un projet de série aussi. Voilà, des nouvelles choses avec ma jeune, toute jeune, inexpérimentée boîte de production.
Société de prod.
Et Feuillemann.
Et Feuillemann, c'est le projet le plus confidentiel sur lequel je travaille. Donc il y a quelque chose qui se prépare, mais on peut pas en dire plus.
On peut en parler maintenant. Et puis comme vous reviendrez pas dans cette émission, on pourra plus jamais en parler.
Je donnerai l'exclusivité à quelqu'un d'autre.
Des excuses à présenter. Allez aux grandes gueules, c'est votre place. Des excuses à présenter.
Oui, bien sûr. Déjà désolé pour tous nos amis chevaux, bourrins, canassons. Tous ceux qui sont paniqués depuis que Pierre Ninet a remis de l'huile sur le dossier des mutilations chevalines et bourriquesques, en balançant Nagui comme responsable des atrocités. Pas de panique, pas de panique, les gars, Nagui ne s'attaque qu'au poney. Désolé pour Eli Robert Fitoussi, aka FR David, qui m'a fait savoir qu'on était parfois un petit peu lourd avec Novan sur son futur single. Ça va, je crois que niveau droit d'auteur, on va filer un sacré coup de main. Désolé pour Pierre Ninet, qui, une nouvelle fois, on l'a vu ce matin, a subi des agressions caractérisées de Monsieur Nagui. Alors, Pierre, le pire, c'est que je vous dis que maintenant vous faites partie du casting de comédiens qui prennent cher dans l'émission, à savoir François Berléand, Pascal Elbé, Robert De Niro. Je vous souhaite vraiment une autre carrière. Désolé pour le garagiste de Nagui, le jardinier de Nagui, le nutritionniste de Nagui, qui, suite à l'écoute de cette émission, ont jeté dans la précipitation toutes les réserves de gasoil, de Roundup et d'huile de palme que leur patron utilise quotidiennement et en grande quantité. C'est tout Nagui, ça, un homme très paradoxal, plein de contradictions, légèrement schizo, mais je vous rassure, il va beaucoup mieux depuis qu'il a découvert sa vraie vocation en ouvrant au bas de chez lui une boucherie chevaline.
Merci Emmanuel Berco, merci Pierre Ninet d'avoir traduit toutes les pensées d'Emmanuel Berco pendant cette émission. Goliath, le film sort demain au cinéma, très bon film. Et ce soir, Claire Borotra sera notre invité. Ce soir, je rappelle, Unis pour l'Ukraine. Leïla Kadour-Boudadi et moi-même, on vous présentera cette soirée pour récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Soirée qui aura le mérite de faire croiser des artistes de toute culture. Ouais. Et je pense aussi bien en termes de passeport qu'en termes de culture musicale, musique classique, musique pop, la danse également sera au rendez-vous, et le but étant de dire que si, en tout cas, l'art ne peut pas forcément changer le monde, il peut peut-être aider à faire passer cette période particulièrement difficile et récolter en l'occurrence des fonds pour la Croix-Rouge.
Et l'Orchestre National de France sera avec nous aussi.
Et puis les chœurs aussi.
La maîtrise de Radio France
chantera. On va pas tout vous dire, mais l'ouverture avec Clara Luciani et la maîtrise vaudra la peine, évidemment, comme tous les numéros présents ce soir.